Les liaisons heureuses. Colombe Schneck.
Les liaisons heureuses. Julia Kristeva.
Atik Raimi.
Comment devient-on lecteur puis écrivain? Grâce à qui? Grâce à quel livre? Ce sont les liaisons heureuses de l'été, une rencontre entre deux écrivains qui se lisent, s'aiment et qui parlent des livres qu'ils aiment. Aujourd'hui, Julia Kristeva, psychanalyste, romancière, essayiste, linguiste, philosophe, auteure entre autres de Meurtre à Byzance ou d'une histoire de l'amour. Elle est célébrée dans les universités du monde entier. Elle a reçu le prix Hannah Arendt en 2006 et le prix Holberg, équivalent du prix Nobel pour les sciences humaines. Elle vient de publier « Leur regard perce nos ombres », un livre de dialogue avec Jean Vanier, fondateur des communautés de l'Arche qui accueille des enfants handicapés. Bonjour Julia Kristeva.
Bonjour.
Atik Raimi, prix Goncourt en 2008 pour Singesabour, ne voulait rencontrer que vous. Julia Kristeva, elle publie chez son éditeur POL son cinquième roman, Maudit, soit Dostoïevski. Bonjour Atik Raimi.
Bonjour.
Vous nous expliquerez cela dans un instant. En fin d'émission, Raphaël Rérol du Monde des Livres, elle viendra vous conseiller un livre. Et on commence avec Ces petits riens, repris par Angélique Kidjo.
Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous. Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous? Tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié fou.
Les liaisons heureuses.
Avec Atik Raimi pour Maudit soit Dostoïevski chez POL et Julia Kristeva pour Leur regard perce nos ombres chez Fayard. Atik Raimi, pourquoi avoir choisi, avec tant d'insistance, vous avez dit, je ne choisis qu'une personne, c'est Julia Kristeva.
Ah, l'histoire est longue, mais bon, j'essaie d'être bref. Écoute, quand je suis arrivé ici en France en 1985, je voulais absolument faire mes études littéraires. Et à ce moment-là, que j'ai vu à la télé, dans l'émission de Pivot, Julia Kristeva parlait de son livre.
Ça doit être l'histoire d'amour, il me semble, que c'était l'histoire d'amour.
Je comprenais très mal, j'avoue, le français. Donc, mais déjà, ce monde littéraire, ce monde intellectuel m'impressionnait énormément. Et après, pendant un an, j'ai travaillé chez moi, sur la langue, pour apprendre bien le français. Je voulais apprendre le français à travers la littérature. Donc j'ai acheté, le premier livre que j'ai acheté, c'était L'amant de Duras, et avec ce livre que je voulais apprendre le français. Voilà. Et un an après, je m'inscris à l'université de Rouen, à la fac des lettres, comme auditeur libre. Le premier jour, c'était sur le nouveau roman. Alors, le prof, il parlait de la modification de Butor, les gommes d'Alain Robbe-Grillet, les fruits d'or de Nathalie Sarraud, du structuralisme. Je ne comprenais rien. Donc, alors là, j'étais complètement désespéré. Je suis rentré chez moi, dépressif, et je me dis non, alors il faut que je travaille sur la littérature moderne. Et pendant un an, j'ai travaillé les nouveaux romans. Philippe Solers, Julia Kristova. Et un an après, je retourne à la fac. Pas de chance, le premier cours, c'était l'ancien français. Bon, c'est pas grave, mais c'est là que j'ai lu Le langage, c'est inconnu. Et ça m'a beaucoup aidé, vraiment, de comprendre la langue, comprendre justement la linguistique, le structuralisme, toute l'histoire des langues, etc.
Mais c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est de passer par là pour comprendre la littérature française, non ?
Ah non, mais il a tout à fait raison. Oui. Moi, je suis très touchée par ce que dit Atik Raimi. Je vais vous dire pourquoi. Moi, j'ai accepté ces liaisons amoureuses que nous allons développer aujourd'hui. Mais ce qu'il dit là me touche beaucoup parce que Le langage, c'est inconnu est un livre que j'ai écrit il y a un petit moment déjà, et ce n'est pas très compliqué. C'est un livre qui raconte l'histoire de la linguistique, comment la pensée occidentale a pu penser la langue. Et c'est le seul livre que j'ai trouvé, moi, très populaire. Et je l'ai signé sous le nom de famille de Philippe Solers, c'est moi qui ai le nom Joyot. Et mon père me disait, pour une fois que tu écris un livre que tout le monde comprend et tu ne le signes pas de notre nom. Donc c'était un scandale dans la famille, ma femme, comme ça, ironique. Donc je suis ravie que ça ait pu vous guider dans, dans
l'entrée énormément, vraiment,
parce en que France moi, et dans la linguistique.
Oui, je ne connaissais pas.
C'est un côté très cosmopolite. Finalement, on se rencontre sur ce terrain. Voilà. En fait.
Et oui. Plus tard, quand j'ai fait ma thèse à la Sorbonne Nouvelle, en sémiologie du cinéma, encore, donc, je travaillais sur la fin des films, que j'appelais la closure textuelle cinématographique.
Ah, c'est très sémiologique.
Ah, bah oui.
Le langage de sémiologie.
Et là, justement.
Là, le jeune étudiant qui vient d'arriver d'Afghanistan, qui vous écoute, qui dit voilà, là, comment il parle avec Raimi.
Et là, encore une fois, je trouve, c'est mon analyse de Julia Kristova. Ça m'a aidé énormément de comprendre qu'est-ce qu'un texte. Qu'est-ce que c'est la clôture textuelle que vous appelez le texte clos. Et puis voilà, ça aussi c'était une étape importante pour moi. Et plus tard, après l'université, ce qui s'est passé donc en 92, j'ai perdu mon frère. J'étais dans la dépression et là, j'ai lu Le Soleil Noir sur le travail de Deuil. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Comment la création peut nous sauver de ce deuil. Après, quand j'écris, évidemment, la Pierre de Patience, Singh et Sabour, sur la dépression féminine, je me suis beaucoup, beaucoup inspiré de ce livre parce que j'écris très instinctivement. Et j'avais pas mal de doutes sur mon personnage féminin, comme ça, quelqu'un qui est dans un état mélancolique. Et encore, j'ai ouvert, après quelques années de distance, le Soleil Noir. Et j'ai vu que Juliette Kristova vraiment analysait mon personnage d'une certaine manière.
C'est toujours incroyable,
déjà tout compris.
Et quand le livre sort, tout le monde m'interrogeait sur l'immigration, sur l'exil. Et là, encore, le livre de Juliette Kristova m'a beaucoup aidé. C'était « Étrangers à nous-mêmes ». Et notamment, quand je suis rentré en Afghanistan en 2002, d'un seul coup, je me suis trouvé étranger dans mon propre pays. Et quand j'ai lu le livre de Julia Kristova, j'ai dit, oui, à un moment donné, justement, l'étranger, l'exilé, atteint l'étrangeté.
Mm. Oui, c'est incroyable, c'est exactement ce qu'écrit Julia Kristova. Donc, votre vie est entièrement nourrie des lectures de Julia Kristova.
Entre autres, je suppose.
Voilà qu'il y a d'autres influences,
ceux qui
c'est incroyable.
Ce qui m'ont donné le goût de lecture, mais ce qui m'ont donné, justement, les moyens de connaître les choses.
Voilà, le dernier, Le regard perce nos ombres, qui est donc un livre de dialogue avec Jean Vanier sur les handicapés, la place des handicapés dans notre société. Est-ce que là encore, vous allez sentir qu'il nourrit votre prochain livre?
Quand j'ai lu, il fallait que je le rencontre. Parce que le premier film que j'ai fait sur l'Afghanistan, un documentaire, concernait un Dominicain français qui a vécu en Afghanistan pendant 30 ans. Il était venu dans les années 50 pour faire une recherche sur un grand mystique perse. Mais il est resté 30 ans.
C'était un Dominicain.
Dominicain Serge de Bourcueil. Et il était en Égypte, il est venu donc en Afghanistan. Il enseignait l'arabe et le soufisme. Et petit à petit, il est devenu infirmier. Il s'occupait que des orphelins, des handicapés Et je l'ai retrouvé ici en France en 98, dans son couvent à Paris. Et j'en ai fait un film. Ça s'appelait « Nous avons partagé le pain et le sel ».
Voilà. C'est incroyable, Julia Kristeva, cette
mais c'est très, liaison très amoureuse. Oui.
J'aimerais juste citer une phrase de Jean Vanier dans votre livre, Julia Kristeva, « Le regard perce nos ombres ». Donc, Jean Vanier, donc, qui est le fondateur de ces comités de l'Arche, qui accueille des handicapés, « Nous sommes confrontés à un problème dans notre société. Nul ne croit que le plaisir à l'Arche est possible. » Cette idée de plaisir, elle revient tout le temps dans votre livre et dans le dialogue que vous avez ensemble.
Écoutez, nous avons fait un débat il y a deux jours, enfin la semaine dernière, et je suis revenue sur cette question de plaisir, parce que c'est quelque chose d'essentiel et en même temps ça porte à confusion. Et je lui dis, mais toi tu as du plaisir, Jean, mais ce plaisir c'est quoi? C'est du sexe, c'est de la pulsion, ou ça peut aller très loin si ce n'est pas surveillé, élucidé. Il a très bien compris ce que je voulais dire.
Oui, parce que juste pour les auditeurs, rappelle qu'il parle du plaisir qu'il a à tenir la main d'un enfant handicapé, à le caresser, quelque chose de sensuel parfois. Et là, dans ce
voilà, qu'il veut. Parce que je lui dis, mais comment tu peux vivre avec, parce qu'il s'agit de personnes qui ont énormément de difficultés, et donc très vite, j'ai compris, et nous avons discuté longuement, que ce plaisir est finalement une tendresse, et c'est le mot de tendresse qui baigne, je crois, tout ce livre et la relation dont il s'agit. Et même sur le plan psychanalytique, je lui dis, mais c'est ce qui se passe aussi dans une cure analytique. Il y a un transfert, comme nous disons, pour employer un terme technique, ce qui veut dire que les relations amoureuses qu'on a eues, y compris les plus torrides, se rééditent, se répètent sur le divan, mais à distance, et finalement donnent un lien amoureux et tendre qui permet de comprendre autrui. Et sans cela, il n'y a pas vraiment de rencontre. Et nous voilà revenus à notre rencontre, chère Atik Haïmi, qui, avec toute votre histoire, finalement, est heureuse parce qu'il y a beaucoup de tendresse quand deux étrangers se rencontrent sur le sol français. Et malgré les difficultés de ce pays à aborder l'étrangeté, ça existe quand même. En vous écoutant, je pensais à une phrase que j'ai dans mon livre « Étrangers à nous-mêmes ». Nulle part on n'est plus étranger qu'en France et nulle part on est mieux étrangers qu'en France. Nulle part on n'est plus étranger parce qu'il y a une espèce de fierté, des institutions fermées et des codes qui rejettent l'étranger, et nous le sentons. Mais en même temps, nulle part on est mieux étranger parce que nous sommes rencontrés, par exemple, vous et moi, et que Madame Schneck nous invite aujourd'hui pour parler de
littérature. De littérature. Vous êtes rencontrés grâce à la littérature.
Voilà. Exactement.
Et voilà. Et la littérature, en particulier française, moi je suis un promoteur de la littérature française, est un lieu de codes qui se rencontrent, de sensibilités qui s'ouvrent les unes aux autres et d'expériences littéraires qui, je pense, n'existent nulle part ailleurs. Les autres littératures, évidemment, sont grandes, Faulkner, Shakespeare, etc. Mais il y a cette espèce de lucidité quant à l'infini de l'expérience littéraire qui se trouve en France, par exemple chez Proust, pour ne citer que celui-là. Et c'est quelque chose de très, très spécifiquement français.
Je vous propose d'écouter Albert Camus lire le début de L'étranger, c'est en 1954, un enregistrement pour l'ORTF.
Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile des vieillards est à Marengo, à 80 km d'Alger. Je prendrai l'autobus à 2 heures et j'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller, je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas de ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Mais il le fera sans doute après-demain quand il me verra en deuil. Pour le moment, c'est un peu comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle.
Julia Kristeva, vous me disiez, Albert Camus a un accent. Mais
moi, je ne l'avais pas entendu. C'est très intéressant de participer à vos émissions parce que je n'avais pas entendu sa voix. Et un des premiers textes que j'avais fait en Bulgarie sur un roman français, j'étais étudiante à l'université de Sofia, c'était sur L'étranger de Camus, en effet. Mais je n'avais jamais entendu sa voix.
Et ben voilà, encore une coïncidence.
Mais cet accent, effectivement, c'était là qu'on... On peut être né en France, ou lui en Algérie, et en Algérie française à l'époque, et on est étranger. Hein,
c'est marrant ce que dit Julia Kristeva, parce que quand j'étais en Afghanistan, j'étais en terminale, et je donnais un exposé sur Albert Camus, L'étranger.
C'est extraordinaire, en Afghanistan, c'est 70.
Je l'ai lu en persan, bien sûr, parce que tous les livres ont été traduits par les Iraniens. Et le lendemain, j'étais convoqué au bureau de la jeunesse communiste, pour me demander pourquoi j'avais fait un exposé sur un écrivain bourgeois. Pour eux, c'était... Et là, en ce moment, mon dernier écrit, c'est sur L'étranger, sur la solitude de Morceau. Et c'est mon personnage de Moudissoua Dostoïevski, Rassoul, qui écrit à Morceau une lettre. Donc, sera publié bientôt. Il se plaint de moi, donc, mon personnage.
Je vous propose d'écouter Black chanter... par Danger Mouse, Daniel Loupi et Nora Jones. Et après, on demandera à Julia Kristeva comment elle a lu et comment elle a été séduite par Atik Raimi. We touched the walls of the city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I'm never asking why. Cast down, it was heaven sent in. To the church, no intent to repent on my knees, just to cry.
Heureuse, Colombe Schneck.
Avec Julia Kristeva pour son livre de dialogue avec Jean Vanier, Le regard perce nos ombres chez Fayard, et Atik Raimi, Maudit soit Dostoïevski chez POL. Julia Kristeva, vous aussi, vous avez été séduite par Atik Raimi, vous avez lu bien sûr son dernier roman, Maudit Swadowski.
Écoutez, moi je ne le connaissais pas et je suis très heureuse et flattée d'entendre toute cette généalogie de notre relation que j'ignorais. Mais la raison pour laquelle je l'ai découverte, c'est une rencontre en fait chez Kléber tout récemment.
La librairie Kléber à Strasbourg
qui a organisé des visites. Et je vois une jeune personne qui porte un livre qui s'appelle Maudit Swadowski. Et j'étais absolument fascinée par le fait qu'une personne qui vient de loin, qui n'est pas russe, qui n'est pas français non plus, j'ai cru comprendre cela lorsque nous sommes présentés, et qui vient d'Afghanistan, fait ce geste de culture extraordinaire et qui doit recevoir un prix, je ne sais pas lequel, de célébrer l'interculturalité. Parce que vous avez réussi dans ce livre à nous parler à la fois de cette horreur que vit le peuple afghan aujourd'hui. Donc on est en plein dans l'actualité qui éclate encore ces jours-ci, hôpital bombardé, hôtel bombardé, etc. En même temps, d'en parler dans un langage qui est accessible à tous les Français qui s'intéressent à ce pays, mais qui trouve à partir de ce drame un drame personnel et un drame qui est celui de la culture moderne et qui est le rapport au religieux. Comment il peut y avoir une barbarie qui ne veut pas considérer que la foi, le besoin de croire sont des composantes essentielles des êtres humains et qui ont éradiqué la religion, on appelle ça le nihilisme. Et de l'autre côté, il y a des extrémistes qui, par trop de croyances, conduisent à une barbarie encore plus cruelle. Et ce phénomène-là, le pas de foi et le comble de foi, qui sont des catastrophes humaines, vous avez trouvé par votre culture, et c'est là la séduction que vous exercez sur moi, vous les avez trouvés déjà analysés par un grand écrivain russe qui est Dostoïevski. Et qui s'attaque au nihilisme, mais aussi, il était croyant, mais aussi à des excès de croyance. Et mon enfance était baignée par l'œuvre de Dostoïevski. Donc j'avais, en vous voyant, je voyais mon père sortir de l'ombre et me parler de Dostoïevski parce qu'à table, il n'arrêtait pas de nous bassiner avec des citations de Dostoïevski et toute la famille était supposée savoir de quoi il s'agit.
Et vous vous souvenez de ces citations de votre père ?
Il parlait surtout des frères Karamazov, il parlait de l'idiot, du prince Mishkin et bien sûr de Crime et Châtiment, de Raskolnikov. Enfin, c'était des personnages qu'il mimait, qu'il traduisait, mais il parlait le russe aussi et donc on baignait dans cette atmosphère. Moi, vous avez parlé tout à l'heure de mon livre Soleil noir de la mélancolie. J'étais fascinée par un moment de la vie de Dostoïevski où il va dans le musée de Bâle. Et il se trouve devant un tableau de Holbein, qui est le tableau du Christ mort. Et Dostoïevski, qui était croyant, pensait qu'évidemment le Christ n'est pas mort, il va ressusciter. Et devant le tableau de Holbein, il se trouve devant un cadavre qui n'est entouré d'aucun ange, il n'y a aucune musique et aucun ciel, parce qu'il est coincé dans son cercueil. Et devant la mort définitive, sans Dieu. Et il pense qu'il va devenir peut-être fou, s'il n'y a pas de Dieu, et il risque d'avoir une crise épileptique. Et sa femme raconte cela, et pour moi, c'était quelque chose qui rejoint la préoccupation de votre livre. Comment peut-on vivre si on ne croit pas que Dieu existe au sens de quelqu'un qui ressuscite ? Et finalement, c'est l'humanisme qui prend le relais de la foi à ce moment-là, et l'écriture.
Et la littérature.
Et la littérature. Ouais. Donc, Soleil noir de la mélancolie, oui, si vous ne croyez pas en Dieu, mais il n'y a pas de mélancolie si vous arrivez à raconter vos affects et vos douleurs dans l'œuvre d'art, que ce soit la peinture ou le roman. Et donc le roman comme relais du soleil noir de la mélancolie.
Oui, parce qu'effectivement, le héros de votre livre est d'une certaine façon sauvé par la littérature, Atik Rémy, ou par...
Voilà, à la fois...
les victimes de Sofkin.
Et puis,
je voudrais juste lire le tout début de votre livre, Atik Rémy. À peine Rassoul a-t-il levé la hache pour l'abattre sur la tête de la vieille dame que l'histoire de Crime et Châtiment lui traverse l'esprit. Elle le foudroie, ses bras tressaillent, ses jambes vacillent et la hache lui échappe des mains. Et vous, Julia Kristeva, qui êtes psychanalyste, qu'est-ce que vous, lecture vous faites quand vous lisez
Je crois qu'il faudrait que le lecteur français comprenne qu'Atik Rémy est quelqu'un nourrie de Dostoïevski, raconte là une scène qui est celle de Raskolnikov. En fait, c'est la même chose que Dostoïevski dit lorsque son personnage tue une usurière russe.
Oui, dans Crime et Châtiment.
Dans Crime et Châtiment. Et donc, il reprend, donc, moi j'appelais ça l'intertextualité, vous êtes l'illustration parfaite de ce que nous disions tout à l'heure, mais peu importe. Vous êtes dans la peau de Dostoïevski, vous êtes nourrie de cette culture russe aussi, je suppose, parce que l'Afghanistan était envahi par les Russes avant d'être envahi.
Voilà.
Et avant d'être envahi maintenant par les blancs européens.
Très proche avec les Russes.
Exactement. Mais vous avez pris le meilleur de cet état de guerre en fait, que vit votre pays et vous vous mettez dans la peau du personnage de Dostoïevski et vous parlez comme si vous étiez Dostoïevski. Et après, on se dégage de la scène russe et on pose les grandes questions. Comment peut-on vivre avec Dieu ou sans Dieu? Et ça devient extrêmement bouleversant, mais non seulement comme une espèce de palimpseste ou écho à la littérature européenne, mais aussi par la compréhension, et là, son grand art personnel, je voudrais insister beaucoup là-dessus, c'est l'autre élément qui me séduit, c'est de montrer comment, dans un état de guerre, l'individu moderne, en l'occurrence afghan, mais ça peut être un Français ou n'importe quelle personne qui est soumis à ce bombardement que nous vivons, il y a un personnage décomposé. Je réponds à votre question, que dire le psychanalyste? Mais il est dans un état d'hallucination. L'homme et la femme moderne sous les bombes des médias ou des bombes tout court, et quelqu'un qui n'a plus de contours, qui n'a plus d'individualité, c'est un drogué. Et les scènes dans les fumoirs représentent très bien cette espèce de décomposition de l'identité personnelle, par rapport à laquelle il n'y a pas d'autre salut, en effet, que l'écriture ou l'amour.
Oui.
D'où le personnage aussi de Sofia, qui est aussi un personnage de Dostoïevski. Là, on est tout à fait dans l'écho, l'éternel retour de Dostoïevski. Mais c'est fait avec une grande maîtrise littéraire aussi.
Oui, j'adore cette idée qu'on puisse être sauvé par la littérature ou l'amour. Hein.
Ah bah écoutez, il y avait un grand poète d'origine indienne, mais il écrivait en persan. Il répondait à Shakespeare, qui disait « Être ou ne pas être, c'est une question, mais l'amour m'a appris que j'existais.
» Julia Kristeva, des livres qui vous ont sauvé?
Je ne sais pas si je suis encore sauvée, c'est en route, mais j'ai essayé un peu, en effet, par la littérature en particulier. Je mettrai en premier lieu Proust, auquel j'ai consacré un livre qui s'appelle « Le temps sensible », et c'est sur littérature comme expérience de la sensualité. Les volumes de Proust sont pour moi quelque chose d'extrêmement vital, parce qu'il arrive à montrer quelque chose qu'il formule de la manière suivante: « La réalité se déchait de l'expérience ». Donc, ce qui compte, c'est l'expérience. Et la littérature est une expérience par rapport à laquelle tout ce qui est du monde soi-disant réel nous paraît être un déchet. Tellement l'infini laboratoire, c'est l'expérience. Et alors, en quoi c'est une expérience? Je pense que vous disiez sur tout le travail que nous avons fait sur le langage, la structure, les codes, etc. Les gens se font une idée très abstraite du langage. Et aujourd'hui, encore plus, la linguistique a pu donner l'impression que c'est un schéma. Et aujourd'hui, ce qu'on appelle l'élément de langage et l'hyperconnectivité donnent l'impression d'une espèce de peau morte qui va vite et qui transporte de la com ou de l'info. Or, il n'y a pas que ça. Il y a les affects, il y a l'amour, les sensations,
la sensualité,
ouais. Les pulsions même, l'érotisme, plus que la sensualité, le sadomasochisme. Chez Proust, toutes ces scènes de viol entre le baron de Charlus, Jupien, etc., toute cette violence, les scènes de flagellation de baron de Charlus, ce sont des scènes extrêmement de hard sex. Eh bien, tout ça, c'est dans la langue, et la langue est capable de transmettre cela, de nous contaminer de cela et de nous faire traverser cela. Donc le côté cathartique, le côté traversé de cette chose-là. C'est ce que vous essayez de faire, mais c'est le grand maître, c'est Proust.
Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Julia Kristeva?
Oui, c'est un autre livre. En effet, je parlais de Proust parce qu'en tant qu'expérience littéraire, en tant que magie de la langue sensible, c'est lui. Il y a deux autres écrivaines, comme on dit maintenant en français, qui m'ont beaucoup aidée dans mon expérience à moi. C'est Colette, d'une part, et Simone de Beauvoir avec Le deuxième sexe. En effet, vous parliez de votre enfance afghane. Moi, je suis une fille de la deuxième Deuxième Guerre mondiale, parce que je suis née avec la guerre, et le communisme après. Et les grands débats que nous avions dans mon adolescence portaient sur la liberté, comment on peut être libre. Mais on pensait la liberté à partir de la philosophie évidemment occidentale, et notamment Hegel, la liberté est une négation, elle est une révolte. On nie les normes, les codes, le père, le parti communiste, tout ce qui est les chapes de plomb qui nous étouffe. Et la liberté est donc cette dialectique de la négation. Et voilà que Simone de Beauvoir dit, mais oui, mais ça se conjugue au féminin. Et c'est une expérience qui a un sexe, et le sexe féminin n'est pas comme l'autre. Et c'est une révélation. Moi, je l'ai lu en effet comme un roman. Actuellement, le deuxième sexe est un chevet du féminisme. On se bat sur le plan politique pour qu'il y ait Martine Aubry, Christine Lagarde, etc. Et c'est très juste et c'est un combat extrêmement important. Mais si on oublie que le deuxième sexe est fondé sur l'expérience littéraire que Simone de Beauvoir va chercher chez les écrivaines du monde entier, et à partir du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, on oublie l'essentiel, à savoir qu'on se libère pour avoir l'accès à l'expérience. Et sans quoi, on devient des robots. Si on n'a pas cette expérience intérieure, ce que j'appelle moi le génie, au sens non pas romantique, mais au sens de la singularité de chacun, qui passe par une expression en particulier littéraire, eh bien c'est la mort de la culture. Et c'est pourquoi j'ai créé le prix Simone de Beauvoir, qu'on donne tous les ans, depuis 4 ans maintenant, à des femmes du monde entier qui se battent pour la liberté des femmes. Et je suis très heureuse, c'est la deuxième raison, outre Dostoïevski, qui m'a fait répondre à la séduction d'Attica Raïmi. Nous avons donné un de prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes à des femmes afghanes qui s'immolent par le feu, parce que la situation est de plus en plus lourde, je crois, du côté des femmes. On n'en parle plus.
Notamment, oui, la ville de Herat, oui, en effet. À mon avis, c'est la seule ville dans le monde où il y a un hôpital juste pour des femmes immolées.
Oui, immolées. Oui.
Et d'ailleurs, voilà encore, c'est pourquoi, à cause de Christophe, Pierre de Patience, Saint-Gesamou, est dédié justement à une fille de Herat. Une poète
femme. On dit Herat.
Herat.
Ça s'écrit Herat en
Herat,
français.
Oui, oui, en français, Herat. Et Nadia Anjuman, assassinée par son mari. Donc, à qui j'ai dédié le livre. Elle est justement de cette ville.
C'est intéressant parce que, Attic Raïmi et Julia Kristeva, parce que vous faites vraiment le lien donc, entre l'expérience réelle, celle de la vie, celle de ces femmes en Afghanistan et la littérature. Et Attic Raïmi, vous me citiez dans les écrivains importants pour vous, Marguerite Duras. Et justement, elle dit le contraire. Elle dit l'écriture est en dehors de la vie. On va l'écouter, c'est un entretien avec Bernard Pivot en 1984 à Apostrophe.
C'est un drôle de truc, l'écriture. Pourquoi on se double de ça? On se double d'une autre vision du réel. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie et duquel on ne peut absolument pas s'extraire? Et puis, je ne sais pas ce que c'est, écrire, je ne sais pas. Je ne sais pas, des gens très très célèbres, pour moi, n'ont pas écrit. Sartre, pour moi, il n'a pas écrit, il n'a pas su ce que c'était qu'écrire. Il n'a jamais affronté l'écriture pure. C'est un moraliste, Sartre. Il y a des gens qui croient écrire, et puis des gens qui écrivent. Je dirais que Blanchot écrit, Bataille a écrit, oui. Mais c'est rare, c'est très rare.
Voilà, c'est Marguerite Duras, Julia Kristeva.
Oui, mais écoutez, elle touche à un problème extrêmement important. Si vous permettez, je vais vous donner mon point de vue. Quand je dis expérience, il faut entendre cela dans deux sens. La langue allemande possède deux termes, Erlebnis et Erfahrung. Erlebnis, c'est l'expérience qui vous bouscule, qui vous fait perdre vos contours, passer par les fumoirs, comme vous dites, être sans repère et faire une rencontre avec un réel qui est nouveau, faire une découverte. Et à partir de là, changer de langage, innover les mots pour rendre compte de ce nouvel objet qui jaillit tout à coup, brusquement. Cette expérience-là, c'est le laboratoire de l'écriture. Et elle a raison de ce point de vue de dire qu'il y a certaines personnes, par exemple aujourd'hui les journalistes qui écrivent et qui croient faire des romans, qui font un reportage, Mallarmé appelait ça l'universel reportage, qui n'est pas de l'écriture. Mais quand on est dans cette Erlebnis, on est à la limite de soi, à la limite des codes linguistiques, et on invente de nouveaux genres, l'intertextualité, la rencontre avec Dostoïevski, des états limites, les états amoureux, etc. Par contre, L'autre expérience, l'expérience qui est plus sociale, plus politique, on l'appelle Erfahrung. C'est comme une expérience scientifique. On travaille avec des concepts, on est dans la rationalité, on peut être dans la morale, etc. Alors, ce sont deux choses en effet différentes. Est-ce qu'il est possible vraiment de les distinguer de manière drastique? Moi, je ne suis pas sûre. Quand on est dans une expérience forte, au sens d'Erfahrung, au sens de Proust, au sens de bataille dont parle Marguerite Duras, ça a toujours des connotations politiques. Ça a des résonances politiques. Ici, vous ne parlez pas de Al-Qaïda ou de Ben Laden, etc. Mais les résonances hyper subjectives, hyper amoureuses de l'expérience intérieure ont des conséquences politiques. Très souvent, chez Marguerite Duras, son côté pureté est une manière peut-être de la défendre contre certaines compromissions qu'elle a pu vivre pendant le moment de la Shoah. Tout ça se comprend. Mais de grâce, ne mettons pas de barrières extrêmement rigides entre les deux.
Bah, écoutez, oui, mais même Duras, quand elle écrit la douleur, on sent son expérience intérieure, mais aussi son expérience politique. De certaines manières.
Qui peuvent aller d'ailleurs à des compromissions.
Exactement.
Et c'est très risqué, cette expérience intérieure. On le voit plus nettement avec Céline. On franchit la barrière morale et on sombre dans l'abjection. Ça peut arriver aussi. Mais en effet, ce n'est pas la même chose. Il se trouve que nous avons parlé de l'expérience politique aujourd'hui. Et il y a des écritures qui sont en reliance entre les deux, on va dire.
Oui. Je voudrais vous citer Maurice Blanchot, L'espace littéraire, parce que je sais que c'est un livre extrêmement important pour vous. Adik Raimi, justement, parle de ce livre. Entre
lui, expérience originelle.
Voilà. Écrire, c'est entrer dans la solitude où menace la fascination. C'est se livrer au risque de l'absence de temps où règne le recommencement éternel. C'est passer du je ou il, de sorte que ce qui n'arrive à personne est anonyme par le fait que cela ne me concerne, se répète dans un éparpillement éternel.
Dans ce passage, ce qui est important, ce qui dit la littérature plusieurs fois, et il dit ça, que la littérature, le roman, c'est passer de je à il. Et ça rejoint ce qu'on disait, c'est cette expérience, c'est de l'expérience extérieure à l'expérience intérieure. Donc, c'est cet effet de distanciation. C'est vrai que vivre un événement et tout de suite écrire, ça revient à ce reportage, voilà, à ces articles. Mais ensuite, vivre avec cet événement, vivre avec la catastrophe qu'on a eue, avec le bonheur qu'on a connu, un certain temps, l'intérioriser et puis écrire dans sa solitude, voilà, ça c'est la littérature.
Pour le plaisir, je vous propose d'écouter un texte de Maurice Blanchot, lu par Stanislas Nordet, La folie du jour.
Je ne suis ni savant, ni ignorant. J'ai connu des joies. C'est trop peu dire, je vis et cette vie me fait le plaisir le plus grand. Alors, la mort, quand je mourrai, peut-être tout à l'heure, je connaîtrai un plaisir immense. Je ne parle pas de l'avant-goût de la mort qui est fade et souvent désagréable, souffrir est abrutissant. Mais telle est la vérité remarquable dont je suis sûr, j'éprouve à vivre un plaisir sans limite. Et j'aurai à mourir une satisfaction sans limite. J'ai erré, j'ai passé d'endroit en endroit. Stable, j'ai demeuré dans une seule chambre. J'ai été pauvre, puis plus riche, puis plus pauvre que beaucoup. Enfant, j'avais de grandes passions et tout ce que je désirais, je l'obtenais. Mon enfance a disparu, ma jeunesse est sur les routes. Il n'importe. Ce qui a été, j'en suis heureux. Ce qui est me plaît, ce qui vient me convient. Mon existence est-elle meilleure que celle de tous? Il se peut. J'ai un toit, beaucoup n'en ont pas. Je n'ai pas la lèpre, je ne suis pas aveugle, je vois le monde. Bonheur extraordinaire, je le vois. Ce jour hors duquel il n'est rien, qui pourrait m'enlever cela? Et ce jour s'effaçant, je m'effacerai avec lui, penser, certitude qui me transporte.
La folie du jour de Maurice Blanchot, lu par Stanislas Nordet, pour vous, Adik Raimi. Là, on est dans la littérature, on pourrait croire que Maurice Blanchot raconte sa vie. espèce de conclusion de sa vie. En fait, on est dans la littérature tout de suite.
Oui, mais ce jeu, justement, ce jeu est un autre. Oui. Si, ce n'est pas le même jeu dont il parlait tout à l'heure. Donc, c'est passé de jeu à île, bien sûr.
Je pense à un autre exemple, parce que c'est un livre aussi, je sais, qui est important pour vous, Atik Raimi, c'est La plaisanterie de Kundera. Où là, pareil, on peut se dire qu'il fait le récit d'un jeune homme dans une dictature soviétique. Et non, on part ailleurs, on part dans le île.
Oui, exactement. Encore, on a tout, souvent dans les critiques, on dit que ça a été une expérience de Kundera. Etc. Mais non, c'était... Bien sûr, il a vécu des choses en Tchécoslovaquie. Okay. On ne peut pas dire il a connu dans tout ce milieu intellectuel et puis les auteurs à Prague. Mais encore, oui, il intériorise tout ça. Et puis, ce qui est important dans le roman, aussi dans le livre de Julia Kristova, elle insiste sur une chose importante, sur l'individualité. Pour moi, le roman n'existe que par cette conscience sur l'individualité. C'est pourquoi, par exemple, chez nous, en Afghanistan, ou même en Iran, on n'arrive pas à imposer l'art du roman, c'est parce qu'on n'a pas cette conscience sur l'individualité. Ça, c'est très important. Et dans le livre de Kundera, c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire, à l'intérieur de grandes histoires, on voit justement le destin d'un individu et puis cette conscience de l'individualité dans une société communiste, etc. C'est ça qui est important pour moi.
Avant de retrouver Raphaël Rérol du Monde des Livres, qui viendra vous conseiller une lecture, juste sur cette idée-là, je voudrais, dans le livre de Julia Kristeva, il y a des phrases de votre fils David, Julia Kristeva, qui sont des phrases qui sont de la poésie. Votre fils est handicapé, donc c'est une des raisons pour lesquelles vous avez écrit ce livre de dialogue. On est dans la littérature.
Non, moi, ce que je... À propos de ce que vous avez fait entendre de Maurice Blanchot à propos de la mortalité, je voulais dire que la gêne que suscitent les personnes handicapées, c'est la gêne devant un corps qui est habité par l'œuvre de la mort. Ce n'est pas une exclusion comme les autres, ce n'est pas une exclusion politique, raciale, sexuelle. C'est le fait que nous n'avons pas de discours pour parler de la mortalité. Les religions l'ont, pour le meilleur et pour le pire, mais l'humanisme ne l'a pas. Et c'est la grande question que posent les personnes handicapées. Et les codes modernes que nous leur proposons sont des codes d'intégration. Tu vas travailler, tu vas apprendre des choses, etc. Mais comment vivre avec toi en t'aimant alors que tu présentes une fragilité qui est telle que sans aide, tu es au bord de la mort. Et nous aussi, cette angoisse-là, le monde moderne n'a pas de discours pour cela.
Il l'a dans la littérature, Julia Kristeva.
On l'a dans la littérature, mais la littérature n'est pas le quotidien, n'est pas la vie courante. Et pour former des personnels, pour former les dentistes, pour former les commerçants, d'avoir cette mentalité-là, souvent on ne passe pas par la littérature. Peu de gens lisent aujourd'hui. Je me suis laissé dire qu'une future candidate à la présidence de la République a demandé à ses collègues quels sont les trois romans que tu as lus, la personnalité politique. Et ils avaient beaucoup de mal à en trouver un. Donc la littérature n'est pas vraiment un art d'éducation encore aujourd'hui.
Donc, voilà. En tout cas, en vous écoutant, on se dit qu'il faut lire parce que si on veut être sauvé, il n'y a que la littérature ou l'amour.
Eh oui.
Voilà. On va écouter Zaza Fournier qui chante Vodka Fraise et puis à Raphaël Rérol qui vient nous sauver après ce disque.
Une vodka à la fraise, fais l'idiote dans mon verre. Droite sur ma chaise, le petit doigt en l'air. Je regarde danser les glaçons tout au fond. Ma robe s'est froissée. Tout autour des filles au sourire.
C'était Zaza Fournier qui chantait Vodka Fraise.
Les liaisons heureuses. Colomb Schneck sur France Inter.
Avec Julia Kristeva pour Leur regard perce nos ombres chez Fayard et Atik Raimi, Maudit soit Dostoïevski chez POL et Raphaël Rérol du Monde des Livres. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Qui vient donc sauver une nouvelle fois Julia Kristeva et Atik Raimi en proposant une lecture.
Vous sauvez, Dieu.
Parce qu'on sait qu'il est en danger.
Non, parce qu'on a compris que seule la littérature et l'amour pouvaient nous sauver.
Donc, vous rendez compte de la responsabilité que vous faites porter. Bref, écoutez, ça tombe bien, parce qu'une fois n'est pas coutume, je voudrais vous parler d'un classique et même d'un grand classique américain, qui est un roman inouï, qui est un roman très politique, et ça m'intéresse, puisque vous parliez tout à l'heure du lien entre l'écriture et la politique, et qui est pourtant, il me semble, un relativement mal connu en France. Alors vous savez, en fait, c'est troublant les classiques. On fait deux erreurs en général. D'abord, on a l'impression que tout ce qui compte est universellement connu, ce qui est faux. Et puis, on a parfois le tort de penser que ces classiques seront plus sages, plus contenus que la littérature qu'on peut lire aujourd'hui. On pense ça parce qu'on vit dans une époque où tout est supposé permis, où les sentiments les plus iconoclastes peuvent se donner libre cours. Et puis, on découvre et on redécouvre que c'est pas loin d'être l'inverse, qu'il y a dans certains livres anciens une audace, une violence de sentiments et d'écriture dont bien peu d'écrivains auraient la force aujourd'hui. Et cette force, cette violence, est exactement ce qui émane de La route du tabac, qui est un roman d'Erskine Caldwell, qui est paru aux États-Unis en 1932. Je suis très très contente parce qu'Atik Raimi ne le connaît pas.
Vous connaissez,
c'est un roman magnifique.
C'est un classique, justement.
C'est un grand classique. Donc en 1932, c'est en pleine dépression, au moment où les États-Unis ont sombré dans une crise économique épouvantable, où des millions de gens errent sur les routes à la recherche de simplement de quoi survivre. Le roman le plus connu de cette époque, et d'ailleurs c'est peut-être lui qui masque un peu ou qui a masqué La route du tabac, c'est Les raisins de la colère de Steinbeck. Mais en fait, La route du tabac a eu un immense retentissement aux États-Unis et en particulier parce qu'il y a une pièce à très grand succès qui en a été tirée. Ce livre, c'est l'histoire d'une famille de fermiers pauvres du sud des États-Unis. Ils s'appellent les Lester. Ce sont des gens dont on comprend qu'ils vivaient déjà dans des conditions extrêmement précaires avant la dépression et qu'ils ont été jetés par la crise dans une situation, alors là, proprement effroyable. En fait, le riche propriétaire pour lequel ils travaillaient, ce sont des métayers, il s'est carrément retiré de ses terres. On est en pleine période de mécanisation. Il a considéré que soit il ne pouvait pas moderniser, soit il ne voulait pas. Et il a mis la clé sous la porte. Il a emporté non seulement les moyens techniques, les moyens financiers, mais toutes les possibilités de crédit. Ce qui est très très important, la banque et le crédit sont des phénomènes centraux dans ce livre, donc plus de possibilités d'emprunter pour acheter des graines, pour acheter des engrais, pour acheter quoi que ce soit. Donc en fait, Jeter Lester, qui est le père de famille et sa famille, sont réduits à la misère et ils sont rendus, et c'est ça qui est d'une violence inouïe dans le livre, à une sorte d'animalité absolument abjecte. D'abord, ils sont ignorants. Dans le cas du père, en plus, velléitaire, un peu voleur, complètement crédule. Et la pauvreté n'est pas seulement pour eux matérielle, elle est morale. Je pense que c'est en ça aussi que le livre est un livre politique. Les personnages, alors d'abord, ils n'ont aucune compassion les uns envers les autres. Il y a une scène épouvantable dans laquelle ils regardent en ricanant la vieille grand-mère, dont personne ne s'occupe, qu'on n'alimente plus pratiquement. Ils la regardent se faire écraser par une auto dans la cour de la ferme en ricanant. Et c'est pas tout. Jeter Lester et sa femme Ada ne se souviennent pas, ça aussi c'est très frappant, ils ne se souviennent pas de l'endroit où ils ont enterré les 5 de leurs enfants qui sont morts. Et ils se souviennent à peine du prénom des 12 qui sont survivants, mais qui sont éparpillés à travers les États-Unis. À force, en fait, la pauvreté les a dépouillés de leurs sentiments et elle s'est même imprégnée dans les corps. Puisque une de leurs filles, par exemple, est affligée d'un épouvantable bec de lièvre. Et il y a un personnage très, très troublant dans le livre qui s'appelle Sœur Bessie. Et qui est en fait une ancienne prostituée qui est devenue prêcheuse évangéliste. Et alors, elle n'a pas de nez. Et à la place du nez, elle a 2 orifices béants au milieu de la figure. C'est un personnage vraiment intéressant, cette femme, parce que c'est une quadragénaire qui épouse un garçon de 16 ans parce qu'elle le veut sexuellement. Et c'est très important dans le livre, parce que La route du tabac, ce n'est pas seulement un roman sur la faim, mais c'est sur la faim sexuelle. C'est une variation autour du désir dans ce qu'il a de plus brutal. Il y a entre autres une scène hallucinante où deux êtres en rut se roulent dans la poussière, dans la cour, toujours dans la cour de la ferme, sous le regard à peu près indifférent de leur entourage. En fait, les personnages sont devenus de purs appétits. Ils ne portent plus la civilisation qu'à l'état de vagues traces. Par exemple, il y a la hantise de mourir en salopette pour le père de famille. C'est ce qu'il lui reste à peu près de civilisation. Donc vous voyez, on est loin de l'image du gentil pauvre bien comme il faut. C'est d'une brutalité totale hein, et c'est d'une efficacité redoutable aussi. C'est finalement, je ne sais pas s'il l'a conçu comme ça, mais c'est le meilleur plaidoyer possible, probablement contre la pauvreté et l'injustice. Ça s'appelle « La route du tabac » d'Erskine Caldwell et c'est disponible en folio, en poche.
Merci beaucoup Raphaël Rérol pour ce conseil de lecture. Atik Raimi, Julia Kristeva, vous avez un conseil de lecture à nous donner pour les vacances ? Quelque chose qui nous ferait plaisir, Julia Kristeva.
Mais écoutez, moi je trouve par exemple, pour parler de cette animalité, cette explosion des passions, mais en même temps, sans les gommer, de leur donner une issue plus estivale, qu'ils lisent Colette. Mais il y a une Colette, contrairement à une image un peu empomadée comme ça, on croit que c'est la dame à chapeau du prix Goncourt.
Très sensuelle.
Et elle est très sensuelle et très monstrueuse. C'était quelqu'un qui, par exemple, interviewait Landru et qui parle beaucoup de la violence humaine. Et Cocteau disait, si Madame Colette n'était pas un monstre, elle ne serait rien. Donc, que nos,
nos alors, auditeurs... à titre de Colette particulièrement violent et sensuel pour...
Peut-être La naissance du jour et Sido.
Et vous, Atik Raimi?
Oui, c'est le dernier livre d'Éric Dulica, Le poids de papillon. Un livre poétique chez Gallimard. C'est une construction romanesque très, très... poétique,
ouais.
Formidable.
Ouais, très court, hein, ce
voilà.
Bijou. Hein.
Voilà, en une heure, on finit. Voilà.
Mais qu'ils lisent aussi nos livres. Enfin,
bah, bien sûr, voilà.
On va les présenter là, tout à l'heure, on ne va pas les oublier.
Il faut lire donc Julia Kristeva et Jean Vanier, Le regard perce nos ombres, peut-être une histoire de l'amour aussi, et Meurtre à Byzance. Et,
voilà. Soleil noir de la mélancolie.
Ouais. Bon. Et Atik Raimi, on peut lire, tout le monde a lu Signe et Sabour, qui est le prix Goncourt, et Maudit soit Dostoevsky chez Poel. Merci à tous les trois. Cette émission a été réalisée par Amari Casanova avec Claire Destacan, Bérangère Capdeki et la technique Pierre-Yves de Rolin. Et puis, vous pouvez retrouver tous les titres des livres cités dans l'émission sur le site franceinter.com. La semaine prochaine, de Raphaël, Raphaël Sorin et Raphaël Enthoven. Et tout de suite après le journal de 18h, vous retrouverez Emmanuel Kérad pour Escale Estivale.